Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Après le duel sur lequel nous reviendrons sur quelques-uns des temps forts de la semaine, le débat. Comment refaire société? Comment recréer des liens après des mois interminables d'isolement pour certains, de distanciation pour les autres? Un parlement des liens a démarré hier à Paris au centre Georges Pompidou, un parlement qui va se tenir tout le week-end et c'est la vie des idées qui reprend une vie qui nous a tellement manqué avec une quarantaine de conversations, de débats, d'échanges pour, et c'est l'ambition, retisser ce qui a été déchiré, abîmé par la pandémie, réfléchir aussi à la transition ou à la révolution en cours. Et dans tous les domaines, une cinquantaine d'intellectuels, de chercheurs, de philosophes, d'écrivains, d'économistes sont réunis pour penser cette nouvelle page d'histoire qui s'ouvre ou s'est ouverte avec la pandémie et surtout rédiger un projet de constitution, pas n'importe quelle constitution, une constitution des liens et moins un texte juridique qu'un projet comme en écrivent ou comme en rêvent les révolutionnaires. Celui-ci prend en considération tous les aspects de la vie, que ce soit la relation avec la nature, la question de l'éducation, la question sociale, celle de la laïcité. Et notre invité participe à ce beau projet. Beau, on va en parler justement. Irénique, diront certains. Il est philosophe, spécialiste de l'évolution de la vie spirituelle dans le monde contemporain. C'est l'un des rédacteurs de la charte de la laïcité à l'école et il sera demain au centre Georges Pompidou à Paris pour une rencontre avec l'un des fondateurs de la collapsologie, Pablo Servigne. Rendez-vous avec Abdennour Bidar dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. C'est l'an 1 de cette nouvelle ère. En tout cas, c'est comme ça que se présente ce projet de constitution des liens dont on parlera tout à l'heure avec Abdennour Bidar et j'ai hâte de voir comment vous allez vous emparer de ce sujet qui est présent depuis le début de l'arrivée du Covid dans nos vies. Mais d'abord, retour sur quelques-uns des temps forts de l'actualité, ceux qui ont retenu votre attention. Et commençons d'abord par la parole étonnante, stupéfiante de Stéphane Séjourné. Il est député européen La République En Marche et il a étonné en disant ceci sur France Inter, mercredi matin, au micro de Léa Salamé.
La logique, quand vous êtes dans une frontière qui est quand même la frontière grise, puisqu'on ne sait pas si Éric Zemmour est dans le champ politique, s'il va se présenter à des élections, s'il fait campagne pour quelqu'un ou pour des idées, la logique, quand vous êtes vraiment dans cette zone grise, ça serait d'avoir une réflexion, effectivement, pour savoir si ce temps de parole n'est pas aussi un temps de parole qui est politique. Je dis qu'il faut ouvrir le débat.
Stéphane Séjourné, qui est donc eurodéputé LREM et qui est conseiller d'Emmanuel Macron, et il proposait donc de comptabiliser comme un temps de parole politique, le temps de parole de certains éditorialistes, certains invités. Il pensait notamment à Éric Zemmour, puisque c'est lui qu'il citait. C'est un débat qui est intéressant et qui vous a interpellé, Natacha.
C'est un débat qui nous intéresse tous pour diverses raisons. D'abord parce que c'est un débat qui peut paraître absurde et surréaliste, mais qui naît du fait d'une évolution des médias et en particulier des chaînes d'information continue. Et c'est en cela que ça nous concerne tous. Et puis, d'une évolution plus globale du rapport entre médias et politiques. Pour le dire rapidement, il a toujours existé des médias d'opinion, des journaux d'opinion. C'est même au cœur de la constitution du paysage médiatique français. Et quand Jaurès dirigeait l'Humanité, je pense à Clémenceau, à l'Aurore, on comprend très bien que la séparation stricte entre les journalistes et le monde politique, en fait, est plus complexe qu'il n'y paraît, surtout dans le cadre de l'histoire française. À ceci près que les chaînes d'information continue se sont fondées autour de l'idée de cette espèce d'idéal de l'information brute. Et c'est ça qui est en train de changer. C'est-à-dire qu'on est en train d'observer une importation du modèle de Fox News, ça tout le monde l'a noté, mais c'est-à-dire cette idée de médias d'opinion, même à la télévision, médias de niche, parlant à un public spécifique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la question de savoir comment on distingue ce qui est politique et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire, quoi qu'on pense de ce que dit Éric Zemmour, en effet, il y a autour de sa personne l'espèce de fantasme d'une candidature à l'élection présidentielle, mais on décompte son temps de parole. À qui,
dans quel camp, dans quel parti,
dans quel cadre. Et quand Bruno Roger Petit prenait la parole comme journaliste, on le considérait comme journaliste. Du jour au lendemain, il est devenu communicant de l'Élysée. Y avait-il une différence entre ce qu'il disait avant et après? Et là, en l'occurrence, ça ne dérangeait personne. Donc il y a là quelque chose d'éminemment complexe. Et la question du temps de parole, elle a été inventée pour préserver le droit à l'existence des petits partis politiques, pour qu'ils ne soient pas écrasés. Il n'a pas été inventé pour éviter que des paroles, des prises de parole politiques et des opinions s'expriment.
Gilles Finkelstein.
Oui, je ne sais pas si l'intervention de Stéphane Séjourné est étonnante ou stupéfiante. Je crois qu'elle participe d'abord d'une volonté de l'exécutif de refaire l'agenda, qui est un élément déterminant dans toute stratégie politique. C'est essayer d'imposer ses propres thèmes et ne pas les subir. A fortiori, quand on sort plus ou moins d'une année de pandémie pendant laquelle la principale action a été une réaction, il y a aujourd'hui manifestement une volonté de l'exécutif d'essayer de refaire l'agenda.
Refaire la météo, comme on disait à l'époque de Tony Blair.
C'est-à-dire d'imposer les thèmes de la conversation publique. On a parlé la semaine dernière ici de la question de la France après l'interview d'Emmanuel Macron dans Zadig. C'était le texte. Il y a eu cette semaine l'image avec son déplacement à Saint-Cyr-la-Popie. Cette semaine a été alimentée par la question de savoir si le pouvoir devait réformer jusqu'au bout et notamment reprendre la réforme des retraites, qui est un élément déterminant parce que Emmanuel Macron garde une image de réformateur, mais il n'a plus de bilan de réformateur. Et on a cette question sur l'information qui est lancée par Stéphane Séjourné, à la fois sur le traitement de l'information et sur le décompte du temps de parole d'Éric Zemmour. Sur Éric Zemmour, la question Zemmour, ou plutôt les questions Zemmour, il y a la question de son statut. Éric Zemmour n'est pas un journaliste. Il est plutôt catégorisé dans les éditorialistes, mais un éditorialiste sur lequel plane une grande ombre d'ambiguïté. Dans la mesure où il a été malgré tout à la convention de Marion Maréchal Le Pen pour un discours programme, il était il y a quelques semaines à la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale, et la rumeur d'une possible candidature à l'élection présidentielle plane également. Et donc, si Éric Zemmour n'est pas un éditorialiste, s'il devient un homme politique, la question de savoir est-ce que son temps de parole doit être décompté dans l'équilibre des temps de parole est une question qui me semble une question qui n'est pas stupéfiante. Il y a des critères qui sont d'ailleurs des critères qui devraient être davantage publics du CSA, et c'est le CSA qui détermine qui est dans quelle catégorie. Et puis, il y a une deuxième question.
Pour certains médias, puisque la question ne se pose pas pour la presse écrite, elle ne se pose pas pour Internet, par exemple. Et du coup, c'est vrai que ça ne serait applicable que pour les télévisions ou les radios.
Vous avez raison, mais il ne vous a pas échappé que Éric Zemmour occupe une certaine place à la télévision, et que donc, compte tenu du temps d'antenne qui est le sien, c'est une question qui est une question importante. Et puis, s'agissant d'Éric Zemmour, il y a une deuxième question au-delà de son statut, qui est: quelle est la stratégie pour le combattre lorsque l'on ne partage pas ses idées? On a beaucoup recours au droit. Et je crois à raison, il a été poursuivi, il a été condamné à plusieurs reprises, soit devant le CSA, soit devant les tribunaux, cette semaine encore. On a souvent recours au registre de la morale. Le fait qu'il ait été condamné le rend-il illégitime pour venir tous les jours à la télévision? Je crois que c'est des vraies questions, mais je crois qu'il faut maintenant le prendre au sérieux et aller sur le terrain de la politique, prendre au sérieux Éric Zemmour, travailler ce qu'il dit et venir le contredire. C'est vrai sur les faits avec lesquels il s'arrange très souvent. C'est vrai avec son programme, puisqu'on a devant nous des questions qui sont des questions majeures. On sort de la pandémie, on l'a dit, il y a une crise économique et sociale importante, il y a un changement climatique sur tous ces sujets. Éric Zemmour a-t-il quelque chose à dire?
Natacha Polony.
Je pense que quand nous l'avions reçu dans cette émission, autour d'un livre sur l'histoire, nous avions justement montré à quel point, en effet, il s'arrange totalement avec, avec les faits historiques et les torts dans un sens qui est véritablement à la limite de la malhonnêteté intellectuelle. Mais la question, me semble-t-il, qui se pose est celle de l'influence du monde médiatique sur la sphère politique. C'est-à-dire que si Éric Zemmour peut se rêver en candidat, c'est aussi parce qu'il y a d'abord une faiblesse du paysage politique, un brouillage des catégories, une toute puissance que donne désormais la notoriété médiatique, et on a vu des personnages politiques surgir à partir de cette notoriété politique. Donc tout cela mérite réflexion, parce que ça dénote une espèce d'impuissance en fait du monde politique qui ne produit plus de personnages suffisamment assurés et forts pour que des courants de pensée puissent s'y retrouver. Et je pense qu'il y a aussi une réflexion à mener, je le disais, sur le monde médiatique, parce que l'évolution de CNews, c'est une évolution qui est en train de, j'allais dire, de contaminer l'ensemble des médias. Et c'est cette idée de médias qui ne s'adressent qu'à un public précis. C'est-à-dire, c'est l'abandon d'un discours universaliste. Et c'est l'idée que l'on va cultiver un public et lui donner ce qu'il attend. Et c'est ça qui fait la force d'Éric Zemmour. Cela dit, il aurait tort de croire que ça peut conduire à un score électoral suffisant, justement parce que le principe d'une niche, c'est qu'on n'étend pas, c'est qu'on creuse la fracture avec ceux qui ne font pas partie de cette niche, et que donc on ne parvient pas à tenir un discours qui englobe.
Gilles Finkelstein.
Oui, c'est précisément la raison pour laquelle si je devais faire un pari audacieux, c'est qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Par ailleurs, ce n'est pas parce qu'il passe à la télévision qu'Éric Zemmour a de l'influence. C'est parce qu'il a de l'influence qu'il passe beaucoup à la télévision. Et c'est comme ça qu'il construit aussi l'audience de CNews, et c'est ce en quoi le débat qui a été lancé par Stéphane Séjourné n'est pas inintéressant, parce que Natacha Polony l'a dit, on avait des journaux d'opinion, on a, et c'est tout à fait nouveau, des télés d'opinion avec CNews. Et je dis c'est tout à fait nouveau dans un paysage où la singularité française est d'avoir 4 chaînes d'information continue, on est les seuls dans ce cas dans le monde, avec sans doute des règles à éclaircir, puisque il y a des cahiers des charges qui sont passés entre les chaînes et le CSA en contrepartie de l'attribution d'une fréquence qui est dans le domaine public. Ce cahier des charges, c'est pour faire des chaînes d'information. S'il y a un changement des règles, il faut que tout ça soit éclairci.
Mais la question d'Internet n'a pas l'air de vous interpeller suffisamment fortement pour faire voler en éclats la question du temps de parole, Natacha.
Si, bien entendu, c'est ce que je voulais dire, c'est que tout est en train d'être bousculé. Mais cela dit, un personnage comme Éric Zemmour n'intervient que sur CNews. Donc si on met en place pour lui une règle de temps de parole, il faudra le recevoir sur les autres chaînes. Hein. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on peut prendre le problème. Pour ce qui est d'Internet, bien entendu que de toute façon, ces règles de temps de parole sont en train de voler en éclats. Pour autant, je crois qu'il est nécessaire de maintenir à tout prix des espaces de... des médias universalistes, c'est-à-dire des espaces où l'on peut encore entendre la contradiction. Nous sommes aujourd'hui entièrement modelés par les algorithmes qui sont en train de dicter leurs lois, même aux médias qui ne dépendent pas de ces algorithmes. Tout cela est profondément dangereux pour la capacité des citoyens à entendre un discours qui les bouscule et qu'ils ne partagent pas. En effet, la question d'Internet va devoir être posée.
Écoutez France Inter, c'est la suite du duel.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Israël, s'il n'y a pas un profond changement dans le discours concernant l'incitation à la haine, cette colère interne qui commence d'ailleurs par la politique, eh bien nous serons dans une situation où nous ferons face à une menace existentielle.
On vient d'entendre le chef de l'opposition israélienne, l'un de ses leaders en tout cas, Yair Lapid, qui est parvenu mercredi cette semaine à conclure des accords de coalition avec 8 partis politiques afin de former un nouveau gouvernement et de déloger l'inamovible Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui est au pouvoir depuis 2009. La vie politique israélienne est d'une complexité folle. Ces 2 dernières années, il y a eu 4 élections majeures qui n'ont pas débouché sur la constitution d'un gouvernement stable. Vous vouliez y revenir, Gilles, sur ce qu'on présente en Israël comme un gouvernement de changement, mais qui doit encore faire l'objet d'un vote de confiance à la Knesset.
Oui, c'est un moment potentiellement historique. Je dis potentiellement parce qu'il n'a pas eu lieu, mais ça fait 12 années consécutives que Netanyahou est au pouvoir. C'est le plus long exercice du pouvoir de l'histoire de ce pays. Et je crois que ça dit des choses non seulement sur Israël, mais ça dit des choses aussi sur nos propres démocraties. On a dans toutes les grandes démocraties occidentales une crise non seulement de la démocratie et des systèmes politiques, qui se traduit par un mouvement général qui fait que les élections sont moins efficaces pour désigner des gouvernements. On a vu en Espagne même, à côté de chez nous, une répétition d'élections parce qu'on n'arrivait pas à déboucher. Et cela donne lieu souvent à des coalitions qui sont des coalitions inhabituelles, des grandes coalitions.
Invraisemblables en Israël, alors, d'autant qu'il y a une proportionnelle intégrale.
Alors j'y viens, en Europe, des grandes coalitions entre partis de gauche et partis de droite, comme on l'a vu en Allemagne, des coalitions plus baroques encore en Italie, on en a parlé il y a quelques semaines, et en Israël, toutes ces tendances-là sont accentuées. Elles sont accentuées pourquoi ? Parce qu'il y a un système électoral qui amplifie ces tendances. C'est-à-dire une seule circonscription pour tout le pays, un seuil pour avoir des députés qui est extrêmement bas, c'est un peu plus de 3%, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez 13 groupes parlementaires pour 120 députés. Et donc, on a eu 4 élections en moins de 2 ans. Si Israël a été un modèle sur le plan vaccinal, c'est un anti-modèle sur le plan électoral, et je crois qu'il faut garder ça en tête. Dernière remarque sur Israël elle-même. Ce pays a vécu, comme beaucoup d'autres, autour d'un clivage gauche-droite. Le clivage, le seul clivage qui permet aujourd'hui de comprendre la situation israélienne, c'est de savoir si vous êtes pour ou si vous êtes contre Benjamin Netanyahou. C'est le rejet de Netanyahou, non pas par la population, mais par la classe politique à qui, pendant ces 12 années, il a tout promis et tout trahi, qui explique l'ampleur de ce rejet. Or, ce rejet est suffisant pour constituer une coalition totalement improbable, parce que elle réunit les contraires.
De la gauche à l'extrême droite, avec des partis du centre, des représentants d'une formation d'arabes israéliens. C'est un inouï.
Inouï, donc improbable. Encore incertaine, c'est un élément très important quand même à garder en tête, parce que cette majorité, elle doit encore être formalisée par un vote à la Knesset, et d'une certaine manière, Netanyahou se trouve dans la situation dans laquelle se trouvait Donald Trump à la fin, c'est-à-dire qu'il a face à lui le risque des tribunaux, et en Israël, c'est un risque qui est extrêmement sérieux. Il va tout tenter. Et on le voit déjà, il va tout tenter pour que, dans les quelques jours qui nous séparent ce vote n'ait pas lieu ou ne tourne pas à son désavantage. Je termine d'une dernière phrase. C'est suffisant pour constituer une coalition, ce n'est pas suffisant pour construire une politique. Et donc, je crois que sur le plan de la paix, il n'y a pas grand-chose à en attendre, peut-être davantage sur le terrain social.
Natacha Polony.
Oui, pour prolonger et préciser, nous avons donc dans cette coalition un parti d'extrême droite religieuse qui pousse à la colonisation de façon extrêmement forte et un parti d'arabes israéliens, disons que certains disent islamistes, en tout cas proches des frères musulmans, et dont le but est de négocier. D'ailleurs, il y a eu l'obtention de quelques petites concessions justement pour le faire rentrer, à savoir reconnaissance de quelques villages bédouins, reconnaissance de l'installation, de l'implantation d'Arabes israéliens et de la possession de certaines habitations. Bon, on voit bien comment tout cela va voler en éclats à la première contradiction. À ceci près que, en effet, Gilles l'a dit tout à fait justement, ce qui tient ensemble ces gens est l'idée que s'il y a entre eux la moindre contradiction, Benjamin Netanyahou pourrait revenir au pouvoir. On comprend bien que la situation, c'est l'aboutissement d'une situation totalement bloquée dans laquelle plus personne n'a décidé d'agir pour faire évoluer la situation. Le bilan de Benjamin Netanyahou est absolument effarant et c'est cette coalition sans aucun sens et dont on peut anticiper qu'elle aboutira à un statu quo assez bancal est la conséquence de tout cela. Le problème est que pendant ce temps, on a vu se déchirer les villes qui sont mixtes en Israël. On a vu s'abîmer l'intégration des Arabes israéliens. Il y a actuellement une campagne de répression très forte contre eux de la part du pouvoir. Il y a donc là les sources de nouveaux conflits que la classe politique israélienne semble totalement incapable de régler et d'éviter.
Avant de recevoir notre invité Abdennour Bidar, le dernier thème du duel.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Nous, la communauté des Grands Chelems, nous étions dans notre devoir de bien lui expliquer les conséquences auxquelles elle s'exposait si elle confirmait cette volonté indiquée de ne pas se conformer à son obligation médiatique.
C'était Amélie Oudéa-Castéra, directrice générale de la Fédération française de tennis, et elle revenait sur ce choix qui a ébranlé le monde du tennis, le choix de la numéro 2 mondiale, Naomi Osaka, d'arrêter la compétition à Roland-Garros. Elle avait secoué le monde du tennis la semaine dernière en annonçant qu'elle ne voulait plus participer aux conférences de presse afin de préserver sa santé mentale. Les conférences de presse sont obligatoires, elle s'exposait donc... Naomi Osaka a des sanctions, éventuellement à une exclusion. Et après avoir été sanctionnée, elle a décidé lundi de quitter la compétition après avoir expliqué souffrir de dépression depuis 2018. Vous êtes un passionné de tennis, Gilles Finkelstein, mais ce n'est pas la passion de la terre battue qui a fait que vous vouliez revenir sur cet événement.
Pas seulement. Je crois que c'est un retrait qui est inédit. Naomi Osaka est peu connue en France, mais son retrait a été un événement mondial. Il a été repris par tous les médias et il a fait réagir les plus grands sportifs et pas seulement les plus grands tennisman. Pourquoi ? Parce que Naomi Osaka est une star mondiale. Elle l'est comme joueuse, elle est numéro 2 mondiale, elle a gagné 4 grands chelems. Elle l'est parce que c'est une femme engagée. Sa famille a été victime de préjugés qui l'ont conduit à émigrer aux États-Unis. Elle-même a été victime de préjugés. Elle s'est engagée en dénonçant les violences policières aux États-Unis. Et elle l'est aussi comme marque, comme icône. Elle a pas moins de 15 contrats avec les plus grandes marques. Ça a fait réagir. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est le problème. Il y a eu un premier registre qui a été mobilisé pour s'indigner du sort qui a été fait à Naomi Osaka, qui est celui de sa liberté. En fait, ça devrait être son choix. Et je dois dire que je partage pas un certain malaise par rapport à cet argument-là, dans la mesure où le tennis professionnel obéit, comme tous les sports, à des règles, non seulement celles du jeu, mais un certain nombre de règles en dehors du jeu. Ceux qui suivent le tennis voient que, par exemple, le comportement sur le court des joueurs est beaucoup plus normé qu'il ne l'était auparavant. Et parmi les obligations, il y a celle de répondre aux médias. Alors, on peut discuter de ces règles. On peut trouver que lorsque John McEnroe explosait de colère, que c'était le tennis avait plus d'émotion. On peut discuter de l'intérêt de ces interviews, qui sont souvent des interviews très formatées. Mais dès lors que il y a ces règles qui sont des règles collectives dans un sport qui est un sport éminemment individuel, qui sont la contrepartie de gains, ça me paraît pas illogique, d'autant plus que Naomi Osaka est très à l'aise avec le sport business. Personne ne le sait, mais c'est la sportive qui a été le plus payée au monde l'année dernière. Bon, donc ça c'est le premier registre. Le deuxième, et je vais beaucoup plus vite, c'est le registre de sa santé. Et ça, c'est quelque chose qui est très nouveau. Et là, pour le coup, je crois qu'il mérite de l'attention, parce que la santé mentale, pas seulement la santé physique, mais la santé mentale des sportifs peut être éprouvée par la pratique de leur sport. Et c'est particulièrement vrai pour le tennis, qui est un sport dans lequel la dimension psychologique est beaucoup plus importante que dans beaucoup d'autres sports. C'est vrai davantage encore en période de pandémie. Ça peut l'être par les défaites, qui vient entamer votre confiance, mais ça l'est aussi, et c'est ça qui est très intéressant, par la victoire. On a vu que Dominic Thiem, qui après des années de combat, a fini par gagner un grand chelem, a eu une dépression après, et c'est exactement la même chose pour Naomi Osaka. Alors, est-ce qu'elle peut être éprouvée, cette santé mentale, par les médias? Ce n'est pas impossible, parce que ce sont souvent des gens qui sont très jeunes, qui sont préparés à jouer, mais qui ne sont pas préparés à parler, et qui sont enfermés dans une bulle qui n'est pas le monde réel. Et donc la confrontation à cette obligation de parler dans le monde réel est souvent une difficulté. Ça l'est davantage encore pour les femmes. Parce qu'il y a eu des études américaines qui ont montré, qui ont étudié l'ensemble des interviews, des conférences de presse. On voit que les femmes sont beaucoup plus interrogées sur leur intimité que ne le sont les hommes. Donc tout ça mérite attention, mais c'est pas la conférence de presse, c'est pas les médias qui sont le problème, c'est le joueur et c'est ce à quoi il faut porter attention.
Natacha Polony, d'un mot ?
Oui,
deux même.
Ouais, je vais aller jusque-là. Le sujet est passionnant. Et je l'ai abordé en novice, dans la mesure où je ne connaissais pas Naomi Osaka. Et j'ai découvert donc, en effet, la polémique mondiale. Et mon premier réflexe a été tout simplement ce qui me semble assez naturel. Mais enfin, elle est là pour jouer au tennis. Elle n'est pas là pour parler. Et au nom de quoi y a-t-il cette obligation ? Et puis quand on entre un peu dans les détails, on comprend que le sujet est en effet beaucoup plus complexe que ça. On peut évidemment s'interroger sur cette obligation de parler aux médias, qui me semble relever, j'allais dire, du modèle économique de ce sport et de la façon dont on fait intervenir les médias pour permettre la notoriété de ces tournois et donc la machine, toute la mécanique qui va derrière. Il y a donc un jeu auquel les joueurs sont censés se plier parce que sinon ils n'auront pas l'occasion de jouer, ou en tout cas cela marchera moins bien. Il y a donc derrière ce qu'on appelle le sport business. Et tout cela peut être contesté. On peut considérer en effet qu'il est tout de même problématique de demander à un joueur de venir commenter parfois selon des considérations qui sont parfaitement inintéressantes, uniquement pour le plaisir des journalistes d'avoir trois mots soutirés à un sportif. Et on peut considérer que de toute façon, la meilleure couverture médiatique d'un sport n'est pas forcément dans ce genre de conférence de presse. Pour autant, la question est le rapport entre la communication officielle via les médias et via les interrogations des journalistes et la communication personnelle que font désormais les sportifs. Et c'est en cela que, il me semble, Naomi Osaka est un exemple. C'est-à-dire qu'elle est la quintessence, Gilles l'a un peu expliqué, elle est la quintessence de cette nouvelle forme de notoriété qui consiste à utiliser son poids, par exemple, dans un sport, pour exprimer des messages, faire passer des idées et également se vendre comme produit. Et le problème est que, bien sûr, les réseaux sociaux permettent à chacun d'être son propre produit sans passer par les médias officiels. Il y a donc cette guerre-là. Je ne suis pas sûre qu'elle puisse être gagnée par les médias classiques uniquement en imposant leur présence à des sportifs. Je pense que la valeur ajoutée qui peut être celle des journalistes par rapport à la pure communication d'un sportif qui, en fait, n'a pas forcément envie de se confronter à des questions qui vont le déranger et veut continuer plutôt à afficher l'image qu'il a décidé de donner de lui-même, cette confrontation-là, je veux dire, les journalistes ne la gagneront pas. Il y a donc une autre manière d'inventer leur rôle. Mais ça nous raconte à quel point les réseaux sociaux sont en train de bousculer totalement les choses. Ça nous raconte aussi, Gilles a parlé de la santé mentale des sportifs, ça nous raconte aussi ce que peut être désormais la fragilité de certains individus et la demande de reconnaissance de cette fragilité. Il y a là aussi un phénomène qui, à mon avis, est un phénomène de fond et qui va bousculer terriblement les rapports sociaux.
À suivre dans le Grand Face-à-Face, le débat avec Abdennour Bidar.
France Inter, le Grand Face-à-Face, le débat.
C'est un événement qui a commencé au Centre Georges Pompidou à Paris, un Parlement des liens qui se réunit, un Parlement des liens comme un Parlement classique, mais pour réinventer notre société à travers des échanges, à travers des discussions, à travers des débats, des conversations sur tous les domaines de notre existence. Une cinquantaine d'intellectuels, de chercheurs, de philosophes, d'écrivains, d'économistes, journalistes sont réunis pour penser cette nouvelle page d'histoire qui s'est ouverte avec la pandémie, pour rédiger aussi un projet de constitution des liens. Et c'est un projet de constitution, comme en écrivent, comme en rêvent les révolutionnaires. Celui-ci prend en considération toutes les dimensions de notre vie humaine et même la relation avec les vivants, avec la nature, la question sociale. Évidemment, notre invité participe à ce projet collectif. Il vient justement du centre Georges Pompidou où il débattait. Il est philosophe, spécialiste de la question de la vie spirituelle dans le monde contemporain. C'est l'un des principaux rédacteurs de la charte de la laïcité à l'école. Bonjour Abdennour Bidar.
Bonjour Ali Badou.
Et bienvenue sur France Inter. Vous avez contribué à un ouvrage qui vient de paraître, Relions-nous, point d'exclamation, relions-nous, la constitution des liens, l'an 1, l'an 1 comme l'an 1 de la Révolution. On va parler des différentes thématiques dont vous êtes emparé. Vous avez discuté d'éducation, d'ailleurs de manière assez étonnante avec Philippe Mérieux qui en est un spécialiste. Et vous avez parlé de religion avec Delphine Horwiller. Débat passionnant. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet événement exceptionnel au centre Georges Pompidou et qui est créé à l'initiative des éditions Les Liens des Libères font des rapports entre des personnes qu'on ne soupçonnait pas pouvoir dialoguer ensemble. Exemple, justement, ce qui va vous réunir, ce sera demain, je crois, après devoir donc discuter avec Natacha et Gilles, une rencontre avec Pablo Servigne. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un spécialiste de l'islam des Lumières, vous pensez à une vie spirituelle et donc... Qu'est-ce que vous allez pouvoir dire à l'un des théoriciens, des fondateurs de cette discipline qu'on appelle la collapsologie ? Abdennour Bidar, Pablo Servigne, pour vous, est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez vous retrouver pour essayer de parler de cette catastrophe qui a déjà commencé, de cette absence de futur qui est devant nous, comme le pense Pablo Servigne ?
Ben, je vais commencer par lui dire ce que disait le pape à une époque, n'ayez pas peur. C'est-à-dire que je vais lui parler d'espérance, et je vais lui parler de foi pas nécessairement au sens religieux du terme, mais au sens où l'humanité a plus d'un tour dans son sac, elle est capable du pire, en l'occurrence elle est capable aujourd'hui de se mettre au bord d'un certain nombre d'abîmes, notamment sur le plan écologique, avec le dérèglement climatique, et puis toutes les catastrophes que nous promettent les collapsologues, Pablo Servigne est collapsologue, c'est-à-dire qu'on va essayer de réfléchir au fait que au-delà d'une catastrophe potentielle, il y a peut-être une responsabilité collective à avoir, et c'est le propre de l'être humain d'ailleurs que de commencer à penser à la responsabilité quand il est au pied du mur. Il n'a pas la maturité nécessaire pour penser de manière responsable quand tout va bien, mais quand tout va mal, il découvre en lui-même des ressources insoupçonnées. Et d'ailleurs, Pablo Servigne lui-même ne parle pas que de catastrophes,
non,
puisque son dernier livre parle de l'entraide et justement d'une autre façon de faire société, non seulement à l'échelle des sociétés humaines, mais avec l'ensemble du vivant.
Avant de donner la parole à Gilles et Natacha, au fond, ce qui peut réunir un croyant et un collapsologue, c'est l'idée d'apocalypse. Sauf que pour le collapsologue, l'apocalypse, c'est tout simplement la catastrophe, la fin d'une vie humainement possible sur Terre. Et pour le croyant, eh bien, l'apocalypse, c'est le début de quelque chose d'autre. C'est l'avènement de la Jérusalem céleste. Vous allez vraiment pouvoir avoir un langage commun ?
Ben, c'est le but de la conversation.
Oui.
Le but de la conversation, c'est à la fois de construire des désaccords et puis de trouver des terrains d'entente. Et là, il y a deux points par rapport à ce que vous évoquez. Tout d'abord, la notion d'apocalypse du point de vue monothéiste, c'est pas seulement l'idée de catastrophe, c'est l'idée de dévoilement. C'est l'idée que, arrivé à une situation limite, quelque chose d'autre va émerger, quelque chose d'autre va apparaître. Donc c'est une espèce de confiance en la vie qui est toujours capable...
Enfin, en la vie après la mort.
Non, en la vie, dans la vie, en la vie de cette vie, c'est-à-dire c'est une observation du vivant et de la façon dont le vivant procède, toujours par destruction successive. C'est-à-dire que pour que quelque chose de nouveau naisse, il faut l'humus de ce qui a pourri, l'humus de ce qui s'est décomposé, l'humus de ce qui s'est dégradé. Donc c'est une observation simplement du jeu de la vie et de la mort dans cette vie. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est la possibilité de construire une espérance commune. commune. On parle de liens, et ce week-end on va parler de liens, de parlement des liens. Ouais. Rien ne serait plus ruineux aujourd'hui que le croyant d'un côté continue de se fier à un certain nombre d'espérances eschatologiques, métaphysiques, etc. Pendant que l'athée, lui, tient un discours complètement différent, mais différent à ce point que l'un et l'autre ne peuvent pas communiquer. Donc, le génie de ce parlement des liens et de ce que nous allons essayer de, ce à quoi nous allons essayer de contribuer modestement avec Pablo demain, c'est de faire parler, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des gens qui d'habitude ne se parlent pas. Là, en l'occurrence, comment est-ce que aujourd'hui, entre athées, agnostiques et croyants, on peut encore espérer construire un monde commun et résister, je dirais, et ça on va en parler avec Pablo parce que c'est important, résister à l'effondrement intérieur auquel nous expose le risque d'effondrement intérieur, auquel nous expose la menace d'un effondrement de civilisation. Oui. Parce que c'est ça qui, je dirais, peut nous menacer et nous tétaniser dans l'idée collapsologique que tout va s'effondrer. On a l'impression qu'il y a une telle fatalité et que la catastrophe va être tellement énorme qu'on se sent totalement impuissant.
Et quelle est certaine. C'est l'un des risques. Alors, toutes les rencontres, je le signale, sont ouvertes au public. C'est gratuit, ça fait du bien de le dire, puisqu'après tout, c'est une liberté retrouvée. Et comme les grands établissements culturels, le centre Georges Pompidou vous accueille dans la limite des places disponibles. Alors, c'est enregistré.
C'est une liberté retrouvée, mais ne crions pas victoire trop tôt, quand même. Hein. Il y a, on respecte évidemment les distances sanitaires, etc. Oui. Mais vous l'avez dit dès le départ, c'est une liberté qui se cherche à nouveau au sortir, on peut l'espérer, d'une période dans laquelle nos libertés fondamentales, liberté de circuler, liberté d'aller et venir, etc., ont été mises à rude épreuve, et non seulement les libertés fondamentales, mais la capacité de relation à l'autre. Hein. Notre relation sociale sort, me semble-t-il, très sinistrée de cette période, et donc il va falloir, là encore, reconstruire du lien, refaire société, et c'est ce que nous essayons d'entreprendre ce week-end, et nous invitons tout le monde à venir faire avec nous.
Des liens qui libère. Gilles Finkelstein.
Au point de départ de cette réflexion collective, il y a l'idée qu'il y a un certain nombre de choses qui reliaient les individus qui se sont défaites. Nous avons vécu au cours des dernières décennies le déclin des grandes idéologies, le déclin des grandes religions, de l'urbanisation. On parlait tout à l'heure des modes de consommation de l'information et de leur éclatement, la modification des structures familiales. Bref, nous sommes de plus en plus dans une société des individus. Est-ce que ce nouveau paradigme que vous évoquez, ce dévoilement dont vous avez parlé à l'instant, est-ce que pour vous c'est une nécessité ou est-ce que c'est déjà une réalité, même si elle est seulement émergente ?
Les deux, votre honneur. Hein. C'est-à-dire que, à la fois, nous venons témoigner de quelque chose qui se cherche, et témoigner d'une émergence, en l'occurrence l'émergence d'une prise de conscience de l'importance de l'interdépendance, de l'importance des liens, du domaine écologique, je dirais, et là il faudrait que je laisse parler Étienne Klein à ma place, qui a participé à ce volume, au domaine quantique. Donc nous venons témoigner du fait que nos façons non seulement de penser le monde, mais nos façons d'agir dans le monde, de faire société, essaient d'aménager de plus en plus la place des liens et se préoccupent de plus en plus d'une qualité des liens, mais en même temps le constat de cette émergence et l'appel à cette émergence, eh bien, nous constatons aussi que à cette émergence des liens, tout un ensemble de choses vont résister. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, et depuis longtemps, ça fait longtemps, vous avez dit société des individus, c'était déjà Norbert Elias, le grand sociologue américain qui titrait l'un de ses livres comme cela dans les années 50.
On pourrait dire Archipel français pour reprendre le titre d'un livre plus récent et célèbre.
Et plus récent, mais ça fait longtemps qu'on fait ce genre de constat. Et même aujourd'hui, on l'entend beaucoup dans la bouche des écologistes, des intellectuels et écologistes qui ont par exemple participé à ce livre. Nous avons vécu depuis Descartes, depuis le XVIIe siècle, dans une séparation de plus en plus grande avec la nature. L'homme s'est rêvé, disait Descartes, maître et possesseur de la nature. Donc en réalité, nous avons construit depuis la Renaissance au moins une société qui délie. une société qui sépare, une société qui atomise, une société qui a donné le mal contemporain de la séparation sociale et spatiale en individus, en communautés, en identités, dont chacun revendique sa différence, en étant de moins en moins capable de réfléchir à ce qui est commun et à ce que nous devons les uns aux autres et à ce que peut apporter le métissage des différences, le dialogue des différences, pas seulement pour les constater ces différences, mais pour construire aussi un par-delà qui est un univers commun de sens, de valeur et d'action.
Natacha Polony.
Je pense que la démarche de cet ouvrage et de ce parlement des liens est extrêmement intéressante parce que nous percevons tous à quel point l'hyperspécialisation de la pensée, de la science, empêche une forme de vision synthétique et de capacité universaliste à réfléchir aux problèmes. Chacun est dans son domaine et c'est peut-être tout le défaut de la science actuelle, au sens le plus large, par rapport à ce que pouvait être un mouvement comme l'humanisme. Donc il y a une tentative de faire se parler des spécialistes. Est-ce que c'est réussi ? En fait, j'ai l'impression que on constate, en lisant ce livre, en lisant les idées qui émergent, à quel point justement la difficulté vient du fait que chacun utilise son propre langage. Ce livre est rempli de rhizomes, de symbioses et autres termes tout à fait, on va dire, incompréhensibles pour le citoyen lambda. Et surtout, il y a là quelque chose qui peut apparaître à la fois contradictoire et extrêmement abstrait. Je prends un exemple. Il y a des passages extrêmement intéressants. Par exemple, le passage sur l'agroécologie, on est dans le concret pur, dans la possibilité même d'inventer une autre agriculture. Votre texte avec Philippe Mérieux sur l'éducation contient des propositions qui, moi, me semblent absolument essentielles, comme par exemple, tout simplement, l'introduction du travail manuel dans les écoles et collèges, la couture, la menuiserie, la ferronnerie, qui sont une manière de reconnecter, en effet, de relier l'individu avec le monde extérieur, la nature, sa capacité à agir dessus, à produire. Mais à côté de ça, vous avez un peu partout dans ce livre des idées dont on a l'impression qu'elles sont sans doute très sympathiques, mais qu'elles flottent dans les limbes. Je pense par exemple au passage sur l'émigration où l'idée est d'introduire l'égalité entre nationaux et non-nationaux. Donc en gros, on abolit l'idée même de démocratie, c'est-à-dire le cadre de la démocratie qu'est l'État-nation. Est-ce qu'il n'y a pas là de très belles idées qui perdent totalement le contact avec les citoyens eux-mêmes?
Abdennour Bidar.
Alors, c'est un art de perdre le contact avec la réalité. C'est un risque, mais c'est aussi un art. En effet, le risque des idées, c'est qu'elles flottent dans l'espace, qu'elles flottent dans l'abstraction, qu'elles soient même exprimées, comme vous l'avez dit, dans des concepts qui sont à peu près incompréhensibles pour le commun des mortels. Bon, mais en même temps, c'est un art, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi de prendre du recul. La pensée a besoin de prendre du recul par rapport à ce qui est immédiat, à ce qui est concret, à ce qu'on a sous les yeux tous les jours, ou je dirais à la paresse intellectuelle de penser de manière ordinaire. Donc ce livre témoigne aussi d'un effort, justement, d'un effort d'abstraction, c'est-à-dire d'un effort pour prendre du recul, d'un effort pour élargir la vision, et de quelque chose qui, sur le plan intellectuel, est en chantier, et vous verrez que ce week-end à Beaubourg, ça a aussi cette vertu-là d'être une espèce d'immense brainstorming où justement on essaie un certain nombre d'hypothèses et donc on a besoin de s'aventurer. Alors toutes les aventures ne vont pas être fécondes, mais on a besoin de s'aventurer dans la pensée pure, et c'est pour ça qu'on a besoin d'être des intellectuels, et c'est pour ça que de tout temps, les idées, qui au départ sont très abstraites, ont toujours eu une force et qu'elles ont eu cette capacité à changer le monde, en réussissant, et à la condition, et c'est pour cela que c'est un art de penser, en réussissant à un moment donné, au fil de la conversation, au fil de l'échange, à se traduire jusqu'à des propositions concrètes comme celles que vous évoquez. Donc, moi je dirais confiance, confiance. Tout ce qui va être dit ce week-end ne sera pas fécond. Il y aura probablement des impasses, il y aura probablement des voies sans issue, mais l'important, c'est ce mouvement-là. Qu'on se remette à penser dans le fond de la civilisation, qu'on redonne un fond d'écran humaniste, qu'on redonne un fond d'écran de sens à la civilisation humaine, au lieu justement d'être toujours en train d'expédier simplement les affaires courantes de ce qui nous sollicite au jour le jour. Voilà. Et puis, j'y insiste parce que, et vous l'avez dit, on a aussi été à certains moments très concrets. Je ne sais pas si on aura l'occasion de développer un peu ce qu'on a pu dire avec Delphine Horviller, de développer un peu ce qu'on a dit avec Philippe Mérieux, de ce qui a été dit aussi
avec
sur
l'agriculture, Dominique Méda. Elle en parlait justement, voilà. Natacha Polony, de ce que vous avez imaginé avec Philippe Mérieux et de ces travaux que vous imaginez pour les enfants, le retour à la terre, le retour même à l'apprentissage de choses qui ont disparu du parcours d'un élève normal, à savoir la couture, à savoir des travaux extrêmement pratiques. Gilles Finkelstein.
Oui, vous avez dit que c'était une aventure dans la pensée pure, et c'est ce en quoi je crois vraiment la lecture de ces petits chapitres et des propositions qui sont derrière est vraiment stimulante. Et Ali Badou tout à l'heure disait que c'était une constitution davantage d'ordre philosophique que d'ordre juridique. À l'évidence, c'est le cas. Et donc moi, qui suis davantage juriste que philosophe, j'avais un peu le même type d'interrogation que Natacha. Qu'est-ce qui est de l'ordre du facultatif et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'obligatoire? Parce que vous avez dit qu'il y aurait des résistances pour ce passage de l'un à l'autre. Par exemple, vous dites à un moment, une des propositions, c'est dans les urbains doivent chacun adopter un arbre. Il faut qu'il y ait des dispositifs de redistribution de l'attention. On sait que la bataille pour l'attention est un élément très important.
Adopter un arbre, c'est une belle idée.
C'est une belle idée, mais si vous n'avez pas, ma question est, pour être plus concret, si vous n'avez pas envie d'adopter un arbre, enfin, qu'est-ce qui relève de l'obligatoire et qu'est-ce qui relève
du
facultatif? Moi, j'aime beaucoup les arbres. De la même manière, quelle est la forme que ça doit prendre dans la relation avec les animaux? C'est un élément qui est très important et très présent dans ce livre. Avec le monde sauvage, par exemple, vous proposez que les interactions entre humains et faune sauvage doivent faire l'objet de négociations visant à établir un partage équitable des ressources. Avec qui on négocie? Et c'est vrai pour l'élevage, un peu de la même manière, à un autre endroit. Vous dites, l'élevage ne pourra désormais procéder à l'insémination artificielle des animaux que moyennant le passage par des formalités administratives structurellement semblables à celles qui sont imposées aux humains.
Ça, c'est une proposition que fait la philosophe Vinciane Després, et je dois dire que c'est absolument passionnant de demander justement à l'animal s'il est volontaire pour participer à une expérimentation.
Alors oui, ma question est quelle forme ça prend ?
Alors, Abdelnour
Bidar. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous me dites. Tout d'abord, adopter un arbre. Alors je vais vous rassurer tout de suite, nul ne sera tenu d'adopter un arbre. Vous pourrez adopter une fleur, une fourmi, effectivement, ou un renard, comme le Petit Prince, hein, bien sûr. Bon, et puis on peut aussi, comme le disait autrefois Alphonse Allais, mettre les villes à la campagne. Mais là, je rigole à moitié. Hein. C'est-à-dire que, en réalité, la question qui est derrière, au-delà des anecdotes qu'on vient de se raconter, c'est l'équilibre de nos existences. Qui sont des existences qui, étant urbaines, sont coupées du milieu vivant.
D'où les interventions d'architectes comme Patrick Bouchain, d'urbaniste, voilà. Qui essayent de repenser la ville.
Comment est-ce qu'on va repenser la ville? Et puis comment est-ce qu'on va aussi repenser l'entassement toujours plus important et problématique des populations sur des espaces qui sont très resserrés en ville? Donc comment est-ce qu'on peut faire pour réinvestir nos espaces ruraux? Il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question déjà pour eux-mêmes pendant la pandémie, parce que d'une certaine façon, cette pandémie a agi comme un révélateur d'une forme d'absurdité de la vie moderne hyper-citadine, qui est une vie d'enfermement. Et là, l'enfermement a été vécu, je dirais, sur un mode XXL, de telle sorte que ça a fait naître un certain nombre de réflexions qui peuvent rejoindre donc celles qui sont conduites dans le Parlement des Liens. Ensuite, au niveau de la négociation avec l'animal, de la négociation avec la nature, etc., le précurseur, là, de la même façon qu'on peut dire qu'en repensant ces interdépendances, on est un peu tous les enfants des Edgar Morin, et de la pensée de la complexité.
Hein. Et de Michel Serres.
Mais là, on est les enfants de Michel Serres, le contrat naturel 1990, c'est-à-dire évidemment qu'il ne faut pas l'imaginer sur un mode naïf, je ne vais pas me mettre en face d'un animal et lui dire alors, écoute, là je m'apprête à faire une expérimentation, est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que tu te sens prêt? Etc. En réalité, c'est tout notre imaginaire aussi de la conversation, tout notre imaginaire de l'altérité qui est mobilisé. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire converser avec éthique animale. Ça veut dire, du point de vue de l'imaginaire et du point de vue de l'éthique, prendre en considération ce qui peut être son point de vue, prendre en considération ce qui peut être sa souffrance, prendre en considération ce qui peut être son intérêt ou ce qui peut lui nuire.
Après tout, ça ne fait que 5 ou 6 ans que le droit français reconnaît les animaux comme des êtres doués de sensibilité et pas seulement comme des biens meubles, en tout cas pour les animaux d'élevage. Et là, les conversations, juste pour clore le chapitre Gilles, la discussion n'a pas lieu avec la vache, mais avec l'éleveur ou l'éleveuse qui, elle, a travaillé, vécu, partagé d'une certaine manière la vie de la vache.
Mais la vache peut assister à la conversation, bien entendu.
Hein. Et y participer. Natacha Polony.
Oui, la vache sera ravie. Je pense qu'il y a en effet des sujets qui sont absolument essentiels et la redéfinition de nos rapports avec les animaux, c'est quelque chose qui est en train de se passer. C'est ça qui est très intéressant. C'est que ça. tout ce dont vous parlez, la question du vivant au sens large, notre perception du vivant et de nous-mêmes comme faisant partie de ce cycle vivant, ce sont des débats que nous allons avoir de façon, à mon avis, très concrète dans les années qui viennent. Pour autant, pour poursuivre la question de Gilles, pour que tout cela soit audible par des gens qui ne sont pas forcément en permanence en train de rêver à la vie des idées, mais qui tout simplement essayent de savoir comment mener leur vie et comment s'émanciper, comment ne pas être prisonnier de ce système, comment ne pas être aliéné, puisqu'il me semble que c'est ça l'enjeu essentiel. Est-ce que réellement ce livre apporte les réponses? Je prends des exemples. Exemple concret sur la santé. Sur la santé, ce qui est dit est tout à fait juste, à savoir redéfinir un système de santé, redéfinir l'accès aux soins, etc. Concrètement, quand il est question de lever totalement les brevets sur les médicaments, que tout cela soit relève du bien commun. En vrai, dans la réalité, on fait comment? On fait la révolution. On abolit les règles de l'Union européenne.
Non, mais on constitue des collectifs, on constitue des groupes de pression, on s'arrange pour peser sur les débats politiques, et c'est la dimension politique de ce Parlement des liens. Hein, c'est-à-dire que notre vœu, et nous ferons tout pour que ce ne soit pas un vœu pieux, n'est pas d'être simplement une collection d'intellectuels qui réfléchit à côté de la société réelle, mais qui est capable de peser. Et donc, très modestement, nous voulons être parmi les initiateurs d'un monde qui change, qui opère un certain nombre de prises de conscience, jusque dans des domaines très concrets. Vous voyez, par exemple, il y a toute cette dimension du travail, hein, tout ce qu'a pu écrire Dominique Méda sur d'autres façons de travailler, une autre façon de penser le partage du travail, la place du travail dans nos existences. Là encore, pour une vie qui est bien mieux reliée, c'est-à-dire une vie qui n'est plus synonyme ni d'aliénation, ni d'exploitation, ni d'absurdité.
Vous assumez le côté utopique ?
Oui, ça fait un petit moment, hein, si vous voulez, que j'assume le côté utopique, mais sinon, qu'est-ce qui nous reste ? Simplement à constater la réalité ou à désespérer, justement, au moment où on est tellement éprouvé en tant que société. Là, je parle de la pandémie, mais je parle aussi d'un monde qui est un petit peu déboussolé à toutes les échelles. Il faut qu'on soit capable de construire un certain nombre de grands récits, et surtout qu'on ait un effet de contagion, que notre parole ait un effet de contagion. C'est ça, simplement, le rôle du philosophe, c'est de donner le désir d'un autre monde et on revient au début de l'entretien, en diffusant de la foi et de l'espérance laïque.
De la foi, malgré tout, mais de la foi peut-être comme celle de John Lennon, celle d'imaginer, même si on est dans l'ordre de l'utopie. C'est la fin de l'émission. Merci Abdennour Bidar d'avoir été notre invité. Je signale que vous allez publier cet été un livre consacré au génie de la France, au vrai sens de la laïcité. Bon courage, c'est votre idée de la France en tout cas que vous formulerez dans ce livre qui sera publié, si je me trompe pas, chez Albin Michel. Voilà, j'ai cherché mes mots. Et le Parlement des Liens se tient au centre Georges Pompidou jusqu'à demain. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Et après tout, enfin on peut se retrouver, enfin on peut échanger, même à distance les uns des autres. Bonne journée Abdennour Bidar, bon débat. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation aujourd'hui, c'était Marie Mérier, à la technique Florent Bujon. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi, pile dans Questions politiques, avec le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, à suivre sur un Terre, le journal.